Chapitre 6e. Après une nuit sans sommeil passée en chemin de fer, Newman descendit, une demi-heure avant que le train arrivât à Genève, à la station indiquée dans le télégramme de Valentin. Un chef de guerre, à moitié endormi, se trouvait sur le quai, une lanterne à la main, et le capuchon de son manteau relevé sur sa tête. Près de lui était un gentleman qui s'avança vers Newman aussitôt qu'il l'aperçut, en saluant d'un air grave et en prononçant son nom. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de grande taille, maigre, la figure pâle, les yeux noirs, la moustache cirée. « Vous êtes un ami de Monsieur de Bellegarde ?» dit l'Américain. « Je partage avec vous ce triste honneur. Je me suis mis à la disposition de Monsieur de Bellegarde dans cette malheureuse affaire, avec Monsieur de Montjoyeux qui veille en ce moment à son chevet. Monsieur de Montjoyeux a eu, je crois, le plaisir de vous rencontrer à Paris, mais comme il est meilleur garde-malade que moi, il est resté auprès de notre pauvre ami. Bellegarde vous attend avec une vive impatience. « Comment va-t-il ? » demanda Newman. « Est-il dangereusement blessé ?»« Le docteur l'a condamné. Nous avions amené un docteur avec nous. Mais il mourra dans les meilleurs sentiments. J'ai envoyé chercher hier soir le curé du village français, le plus voisin. Il est resté une heure avec lui. Il a été on ne peut plus satisfait. « Dieu me pardonne, » grommela Newman. « J'aimerais mieux que ce fût le médecin. » « Et peut-il me voir ? Me reconnaîtra-t-il ? » Quand je l'ai quitté il y a une demi-heure, il s'était profondément endormi, après une nuit agitée et fiévreuse. Qui sait dans quel état nous le retrouverons ? Le compagnon de Newman, tout en le conduisant de la station au village, lui expliqua que M. de Bellegarde était installé plus confortablement qu'on n'aurait osé l'espérer dans une petite auberge suisse. « Nous sommes de vieux compagnons d'armes, » dit-il. Et ce n'est pas la première fois que l'un de nous donne des soins à l'autre. La blessure est des plus mauvaises, mais ce qu'il y a de plus pitoyable, c'est que l'adversaire de Bellegarde n'est pas bon tireur. Il a envoyé sa balle sans savoir ce qu'il faisait. Le malheur a voulu qu'elle alla droit dans la poitrine de ce pauvre garçon juste au-dessous du cœur. Comme il continuait à marcher, au milieu de la demi-obscurité du matin, le témoin raconta les diverses particularités du duel. Les conditions étaient que si le premier échange de deux balles n'amenait pas de résultat, on tirerait une deuxième fois. La première balle de Valentin avait effleuré le bras de M. Stanislas Cap, égratignant seulement les chairs. « J'en suis intimement convaincu, » observa le témoin, « Bellegarde ne voulait pas autre chose. Quant à la balle de M. Cap, elle a passé 10 pouces au moins au-dessus de la tête de Valentin. Les seconds de M. Cap demandèrent alors un autre échange de balles, ce qui fut accordé. Cette fois, Valentin tira de côté et le jeune Alsacien riposta « À la bas comme je te pousse. » Dès son arrivée sur le terrain, j'avais vu tout de suite qu'il ne serait pas commode. C'est une espèce de tempérament de bœuf. Nous avons installé Valentin à l'auberge et M. Stanislas et ses témoins se sont éclipsés je ne sais où. Les autorités du canton, réunies à l'auberge, ont été tout ce qu'on peut imaginer de plus solennel et ont dressé un long procès-verbal. « A-t-on envoyé un télégramme à la famille Bellegarde ?» demanda Newman. « Valentin s'est opposé hier au soir. » Il refusait de croire à la gravité de sa blessure, mais après son entrevue avec le curé, il a consenti à l'envoi d'une dépêche à sa mère. La marquise fera bien de se presser. « Ah, quelle abominable aventure !» s'écria Newman d'un ton de profond dégoût. « Voilà tout ce que je peux en dire. »« Alors, vous n'approuvez pas ?» fit l'autre avec une curiosité polie. « Si j'approuve ? Ah, j'aurais voulu être ici la nuit d'avant-hier. Je vous l'aurais enfermé dans sa chambre à double tour. » Ça n'aurait pas été long, je vous en réponds. » Le témoin de Valentin ouvrit de grands yeux et secoua 2 ou 3 fois la tête en sifflotant entre ses dents. Ils arrivaient en ce moment à l'hôtel. Une grosse servante, en toilette de nuit, attendait devant la porte pour prendre la valise de Newman qu'un commissionnaire du chemin de fer portait en trottinant derrière lui. Valentin était logé au rez-de-chaussée, sur le derrière de la maison. Newman suivit un long corridor et son compagnon, ouvrant doucement la porte, lui fit signe d'entrer dans la chambre, éclairée par une seule bougie garnie d'un énorme abat-jour. Devant le feu était assis M. de Montjoyeux, endormi, tout habillé, un petit homme gras et blond que Newman avait vu quelquefois avec Valentin, dans le lit, le blessé, pâle, immobile, les yeux fermés. Le collègue de M. de Montjoyeux, montrant du doigt une porte entr'ouverte au fond de la pièce, murmura que le docteur était là, prêt à tout événement. Aussi longtemps que Valentin dormait ou semblait dormir, la présence de Newman n'était pas nécessaire. Il se retira donc sur la pointe des pieds et se fit conduire par la bonne à une chambre du premier étage où il put prendre quelques heures de repos. Quand il s'éveilla, il faisait grand jour. Le soleil dardait sur les vitres de sa chambre et il entendit au dehors le gloussement des poules. Il sauta bas du lit et s'habilla en toute hâte. Il achevait à peine sa toilette qu'on vint lui demander, de la part de M. de Montjoyeux et de son ami, de déjeuner avec eux. Il trouva dans la salle à manger M. de Montjoyeux, d'une fraîcheur de teint vraiment étonnante pour un homme qui a passé la nuit au chevet d'un malade, se frottant les mains et surveillant le couvert. Tout en renouvelant connaissance avec lui, il apprit que Valentin dormait encore, veillé par le médecin. Il apprit aussi que le collègue de M. de Montjoyeux s'appelait Ledoux, et que son intimité avec Bellegarde datait du temps où ils avaient servi ensemble dans les zouaves pontificaux. M. Ledoux était le neveu d'un évêque ultramontain. Cet élégant neveu entra quelques minutes après, dans une toilette qu'il s'était ingénieusement efforcé d'harmoniser avec la situation présente, avec un air de gravité doucement tempéré par l'agréable perspective du meilleur déjeuner qu'eût jamais préparé la croix helvétique grâce au concours des talents culinaires du domestique de Valentin. On se mit à table. Les deux Français firent de leur mieux pour prouver que si les circonstances pouvaient jeter un voile sur le brillant de leur conversation, elles étaient impuissantes à l'obscurcir entièrement. Et M. Ledoux prononça un petit éloge, fort proprement tourné, ma foi, de ce pauvre Bellegarde qu'il déclara le plus charmant Anglais qu'il eût connu de sa vie. « Vous l'appelez un Anglais ?» demanda Newman. M. Ledoux sourit avec complaisance et fit une épigramme. « C'est plus qu'un Anglais, c'est un Anglomane. » « Je n'avais jamais remarqué cela, » dit Newman. « Voyons, voyons !» s'écria M. de Montjoyeux. « Il est peut-être un peu trop tôt pour prononcer l'oraison funèbre de ce cher Bellegarde. » « Évidemment, mais je n'ai pu me défendre de faire observer ce matin à M. Newman que quand un homme a pris, comme notre ami hier soir, d'aussi excellentes mesures pour le salut de son âme, ce serait vraiment regrettable de le voir, en guérissant, retomber dans le péché. » M. Ledoux était un enragé clérical. Newman examinait curieusement ce type étrange. Au jour, il avait l'air d'un aimable rêveur. Avec son grand nez filé et son long visage maigre, il ressemblait à un portrait de moine espagnol. Il donnait à entendre qu'après tout, rien ne valait encore le duel, pourvu que si on y attrapait une blessure, on pût voir promptement un prêtre, et dans le cas particulier de Valentin, il paraissait éprouver une grande satisfaction de son entrevue avec le curé. Cependant, sa conversation n'indiquait pas le moins du monde un esprit tourné vers les choses saintes. Avec un sentiment très élevé des convenances, il était plein d'urbanité et disposé à vous faire toutes les concessions possibles. Il ne cessait de sourire. Ce sourire relevait sa moustache jusque sur son nez et de tout expliquer. Le savoir-vivre était sa spécialité et comme on vient de le voir, cela comprenait aussi le savoir-mourir. Mais sur ce dernier point, Newman en faisait la réflexion avec une profonde irritation. Il laissait volontiers aux autres le soin de mettre ses principes en pratique. M. de Montjoyeux était d'une toute autre nature. Évidemment, il considérait l'onction évangélique de son ami comme le signe d'une supériorité d'esprit qu'il renonçait à atteindre, et avec une sorte de tendresse joviale, concentrait ses efforts vers un seul but, rendre à Valentin ses derniers moments agréables et lui faire oublier, autant que possible, le boulevard des Italiens. Mais ce qui le préoccupait surtout, c'était qu'un lourdeau, fils d'un brasseur alsacien, ait pu viser si net et si juste. Il avouait que lui-même n'aurait pas mieux tiré, et cependant au tir, c'était connu, il mouchait une bougie à 20 pas. Il se hâtait d'ajouter toutefois que, dans la présente occasion, il se fût fait scrupule d'user de ses avantages. Ce n'était pas le cas, que diable, pour une bagatelle. Il aurait choisi quelque endroit du corps bien charnu et y aurait logé sa balle sans danger. M. Stanislas Cap avait eu la main d'une lourdeur déplorable, mais vraiment, quand le monde en arrive là, qu'il ait reçu d'accorder réparation au fils d'un brasseur. Tout en parlant, M. de Montjoyeux, comme s'il eût regretté de s'en tenir aux généralités et de n'être pas à même de prouver son dire, regardait par la fenêtre, par-dessus l'épaule de M. Ledoux, un arbre rameau gris de l'autre côté du chemin, et, mesurant la distance, semblait désirer secrètement que, puisque la conversation avait été mise sur ce sujet, le propriétaire de l'auberge ne s'opposa pas à un petit essai de tir au pistolet. Newman n'était pas en train de plaisanter. Il ne pouvait ni manger ni parler. Son cœur était angoissé de douleur et de colère. Il restait là, les yeux fixés sur son assiette, comptant les minutes, espérant que Valentin, après une première entrevue, lui permettrait de retourner vers Madame de Saint-Tré et l'instant d'après, se traitant mentalement de ville brute pour son impatience et son égoïsme. Quelle idée, Bellegarde, a-t-il eue de faire venir à son lit de mort un Yankee aussi taciturne ? Pensaient les deux convives en le regardant étonné. Après le déjeuner, quand il les vit s'attabler dans le jardin, prendre tout à leur aise leur café et fumer des cigarettes, Newman ne se sentit plus le courage de leur tenir compagnie et, rentrant doucement dans la chambre de Valentin, demanda au médecin s'il ne pourrait le remplacer auprès de son pauvre ami. Le docteur, fatigué de sa nuit de veille, accepta sans se faire prier, lui donna ses instructions et, en se retirant, lui glissa discrètement dans la main un petit livre qu'il lui recommanda comme un moyen infaillible de combattre le sommeil et qui n'était autre qu'un vieux volume de Faublas. Valentin était toujours immobile, les paupières closes. Newman s'assit près de lui, attendant avec anxiété l'instant de son réveil, ne le quittant pas des yeux. Peu à peu, cependant, ses pensées prirent un autre cours, ses regards se portèrent sur la chaîne des Alpes, qu'on apercevait vaguement à travers les rideaux de coton blanc de la fenêtre. Il réfléchit à sa propre situation. Ce qui lui était arrivé lui semblait avoir, comme violence et audace, la force d'une réelle calamité, la force et l'insolence de la destinée elle-même. C'était surnaturel et monstrueux, et il n'y pouvait rien. Il lui fallait courber la tête. C'est en vain qu'il essayait de se rapprocher à l'espérance. Tout à coup, la voix de Valentin rompit le silence de la chambre. « Ce n'est pas à cause de moi, n'est-ce pas, que vous faites cette figure longue du nonne ? Voilà un quart d'heure que je vous regarde. Vous avez l'air aussi triste qu'un bonnet de nuit. Ah, je vous inspire un profond dégoût, naturellement, et à moi aussi. » « Oh, je ne vous ferai pas de reproches, » dit Newman. « Je suis trop peiné. »« Voyons, comment allez-vous ? » ?»« Comment je vais ? » ?»« Je m'en vais, voilà tout. » »« C'est une affaire entendue, n'est-il pas vrai ?»« Ça dépend de vous. Vous pouvez vous en tirer, si vous voulez. » »« Mon cher garçon, comment le pourrais-je ? » ?»« Le moindre effort est pour moi un violent exercice en ce moment, et peu facile à exécuter pour un homme, ayant dans le côté un trou aussi grand que votre chapeau et qui saigne. » S'il bouge seulement de l'épaisseur d'un cheveu. Je savais que vous viendriez, continua Valentin. Un instant après, je savais qu'en me réveillant, je vous trouverais ici, de sorte que je n'ai pas été surpris en vous voyant à mon chevet. Mais la nuit dernière, j'étais si impatient. Je ne croyais pas pouvoir rester tranquille jusqu'à votre arrivée, et il s'agissait pourtant de ne pas bouger, pas plus qu'une momie dans son sarcophage. Vous parliez d'effort, j'ai fait celui-là. Eh bien, me voici, cependant, dans la même position depuis 20 heures, qui m'ont paru 20 jours. » Bellegarde parlait lentement, péniblement, d'une voix faible mais distincte. Il était visible que ses souffrances étaient atroces. Il ferma les yeux. « Ne vous fatiguez pas, ne parlez plus, » dit Newman. « C'est l'ordre formel du docteur. »« Oh !» reprit Valentin. « Mangeons et buvons, car demain... » Il s'arrêta de nouveau. « Non pas demain, peut-être, mais aujourd'hui. »« Je ne puis ni manger ni boire, mais je peux parler. » Qu'est-ce que je gagnerais dans ma situation à y renoncer ? J'ai toujours été un causeur. Ah, mon Dieu, ai-je assez bavardé dans ma vie ? Raison de plus pour vous tenir tranquille maintenant. Nous savons comme vous causez bien, nous connaissons vos talents. » Mais Valentin, sans tenir compte de l'observation, continua de la même voix faible, traînante, presque mourante. « Je voulais vous voir parce que vous avez vu ma sœur. C'est elle ? Viendra-t-elle ? » Newman était embarrassé. « Oui, à l'heure qu'il est, elle doit avoir appris. »« Vous ne lui avez rien dit ? Vous n'apportez aucune lettre d'elle ? » ?»« Je ne l'ai pas vue après avoir reçu votre télégramme. Je lui écris. » »« Et elle ne vous a pas envoyé de réponse ?» Newman fut bien forcé de répondre que Madame de Saint-Tré avait quitté Paris. « Elle est partie hier pour Fleurières. »« Hier, pour Fleurières ? Qu'est-ce qu'elle va faire à Fleurières ? Quel jour était-ce ? Quel jour, hier ? Ah, alors je ne la verrai pas. » Fleurières est si loin. » Valentin ferma de nouveau les yeux. Newman gardait le silence, cherchant quelques pieux mensonges. « Et ma mère et mon frère ?» reprit Bellegarde après un instant. « Viendront-ils ? Sont-ils aussi à Fleurières ? Non. Ils sont à Paris, mais je ne les ai vus ni l'un ni l'autre. S'ils ont reçu à temps votre télégramme, ils seront partis ce matin. Autrement, force leur sera d'attendre le train express de nuit, et ils arriveront seulement demain matin, à la même heure que moi. » « Ils ne me remercieront pas, ils ne me remercieront pas, » murmura Valentin. Ils passeront une nuit horrible, et Urbain n'aime pas l'air du matin. Je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu avant midi, avant le déjeuner. Personne ne l'a vu avant. Nous ne savons pas comment il est alors. Peut-être est-il indifférent, qui le sait. La postérité, peut-être, le sauvera. C'est toujours le matin qu'il travaille dans son cabinet, à l'histoire des princesses. Mais je devais les avertir, n'est-ce pas? Et puis je voudrais voir ma mère assise là où vous êtes et lui dire adieu. Peut-être, après tout, je ne la connais pas encore et me réserve-t-elle quelques surprises. Ne croyez pas que vous la connaissiez vous-même. Peut-être vous surprendra-t-elle. Mais si je ne puis voir ma sœur, le reste m'importe peu. J'y ai beaucoup pensé, et dans mes rêves aussi. Pourquoi est-elle partie pour Fleurières aujourd'hui? Elle ne m'en avait pas parlé. Que s'est-il passé? Ah, elle aurait dû deviner que j'étais ici, mourant. C'est la première fois de sa vie qu'elle m'est désappointée. Pauvre Claire. Vous savez que nous ne sommes pas encore comme mari et femme, votre sœur et moi, dit Newman. Elle ne rend pas compte de ses actions. Valentin ne la quittait pas des yeux. Vous vous êtes querellé? Jamais, jamais, jamais. De quel ton vainqueur, vous me dites cela? Ah, vous allez être heureux, vous. En réponse à cette sanglante ironie, qui n'en était pas moins cruelle pour être inconsciente, tout ce que le pauvre Newman put faire fut de regarder Valentin fixement, d'un air désespéré. Mais vous avez certainement quelque chose, continua Valentin. Je vous examinais tout à l'heure. Vous n'avez pas l'air d'un fiancé. Mon cher garçon, dit Newman, comment pourrais-je vous montrer la mine d'un fiancé? Si vous croyez que ça me fait plaisir de vous voir étendu là sur ce lit et de me sentir incapable de vous secourir. Ah, vous êtes l'homme qui a le droit d'être heureux, ne l'oubliez pas. Je suis la preuve de votre sagesse. Un homme n'a rien à se reprocher quand il peut dire « Je vous avais averti ». Oui, vous m'aviez averti, vous savez. Vous avez fait ce que vous pouviez dans cette affaire. Vous m'avez dit quelques bonnes choses. J'y ai beaucoup pensé depuis, mais, cher ami, j'étais dans le vrai. Malgré tout, c'était la seule conduite à tenir. Non, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. J'aurais dû faire quelque chose d'autre. Quoi, par exemple? Oh, n'importe quoi. Vous traitez comme un petit enfant. Eh bien, je suis un tout petit enfant maintenant. Je suis moins qu'un enfant. Un enfant est faible, mais généralement il a l'avenir devant lui. J'ai un joli avenir, hein? Et Dieu sait quel a été mon passé. Ah, la société ne fera pas une grande perte. Newman était profondément ému. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, s'appuya la tête contre la vitre, les yeux remplis de larmes. Non, non, je n'aime pas avoir votre dos, continua Valentin. J'ai toujours été grand observateur des dos. Le vôtre a l'air tout à fait contrarié. Voyons, du calme, dit Newman en reprenant sa place au chevet du lit. Ne vous agitez pas et guérissez. Voilà ce que vous devez faire, guérissez, et venez à mon secours. Je vous disais bien que vous aviez quelque chose. En quoi pourrais-je vous aider? Vous le saurez quand vous serez mieux. Vous avez toujours été curieux. Vous voilà donc avec une bonne raison de plus pour désirer guérir. Valentin ferma les yeux. Il resta longtemps sans parler. Il semblait s'être endormi. Mais au bout d'une demi-heure, il dit tout à coup « J'ai presque des regrets à propos de cette place dans une banque. Qui sait si je ne serais pas devenu un autre Rothschild? Mais vraiment, avais-je bien l'étoffe d'un banquier? Un banquier, ça ne se tue pas si facilement. Ne pensez-vous pas que j'étais bien facile à tuer? Ça ne ressemble pas à un homme sérieux. C'est réellement très mortifiant. Je me fais l'effet d'un homme qui dit à son hôtesse « Je suis forcé de vous quitter, content qu'elle lui demandera de rester. Réellement, si tôt? Vous ne faites qu'arriver. » La vie ne m'adresse même pas ce petit discours poli. Newman garda quelques instants de silence, ne sachant qu'en répondre. Tout à coup, il s'écria. Quelle sacrée affaire! Ah, c'est la plus pitoyable dont j'ai jamais été témoin. Je ne voudrais rien dire de pénible, mais c'est plus fort que moi. J'ai vu bien souvent des hommes mourants. J'en ai vu atteints deux coups de feu. Ça m'avait toujours semblé naturel. Ils n'étaient pas intelligents comme vous. « Damnation, damnation! Vous auriez pu mieux agir. C'est la liquidation la plus déplorable que je puisse imaginer. » Valentin agita faiblement la main. « N'insistez pas, n'insistez pas. Je suis de votre avis. »« Ah, vous êtes réveillé, » dit le médecin en passant la tête par la porte entrouverte. Il s'approcha du lit et tâta le pouls de Valentin. « Vous avez beaucoup trop parlé, 10 fois trop. »« Quelle bêtise !» fit Valentin. « Un homme condamné à mort ne saurait trop parler. Avez-vous jamais lu dans les journaux les détails d'une exécution? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une masse de monde chez le prisonnier, avocat, reporter, prêtre, pour le faire parler? En tout cas, ce n'est pas la faute de M. Newman. Il est resté là, aussi momifié qu'une tête de mort. Il était temps, cependant, de panser le malade, et sur l'observation du docteur, messieurs de Montjoyeux et Ledoux, qui avaient déjà assisté à cette délicate opération, remplacèrent Newman au chevet de Valentin. Newman se promena dans le village pendant 2 ou 3 heures, et ne rentra à l'hôtel que pour dîner avec le docteur et M. Ledoux. Ces messieurs avaient reçu un télégramme d'Urbain de Bellegarde, annonçant qu'ayant été avisé trop tard pour prendre le train du matin, ils partirent avec sa mère par celui du soir. Le pansement ne s'était effectué qu'avec les plus grandes difficultés, et le docteur ne savait réellement pas comment son malade pourrait en endurer un second. Il demanda expressément à Newman de se refuser la satisfaction de veiller M. de Bellegarde, puisque, plus que tout autre, il avait le flatteur mais dangereux privilège de l'exciter. M. Ledoux, à cette remarque, avala en silence un grand verre de vin. Il ne parvenait pas à comprendre ce que Bellegarde pouvait trouver de si excitant chez cet Américain. Après le dîner, Newman se retira dans la chambre où l'avait déjà conduit le matin la servante de l'auberge, mais cette fois il ne se coucha pas, il lui aurait été impossible de dormir. Vers le milieu de la nuit, on frappa doucement à sa porte. C'était le docteur. « Il faut encore qu'il s'amuse, » dit-il avec un haussement d'épaule. « Il insiste pour vous voir et j'en ai peur. Il n'y a pas moyen pour vous de refuser. Il ne passera pas la nuit. » Newman retourna auprès de Valentin. « Ah, enfin vous voilà, » fit celui-ci en le voyant entrer. « Ils prétendent que vous m'excitez. Je me sens excité, je l'avoue, mais ce n'est pas par vous, c'est par mes propres pensées. J'ai réfléchi, beaucoup réfléchi. Tenez, allumez donc une autre bougie. « Je veux voir votre visage. Asseyez-vous et laissez-moi vous regarder encore. » Newman s'assit, croisa ses bras et fixa un regard profond sur son ami. Il semblait jouer un rôle, machinalement, dans un lugubre drame. Valentin ne le quitta pas des yeux pendant quelques minutes. « Oui, j'étais dans le vrai ce matin. Vous avez l'esprit préoccupé de quelque chose de plus sérieux que Valentin de Bellegarde. Voyons, je vais mourir et il serait indécent de me tromper. » Que s'est-il passé à Paris après mon départ? Ce n'est pas pour rien que ma sœur est partie pour Fleurières à cette époque de l'année. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça me tracasse. J'ai beaucoup pensé, et si vous ne me dites rien, je devinerai. Je ferais mieux de ne rien vous dire. À quoi bon vous agiter? Si vous vous imaginez que vous m'agiterez moins en ne me disant rien, vous vous trompez étrangement. Il y a du grabuge pour votre mariage, n'est-ce pas?
Oui, dit Newman. Bien.
Valentin se tut un moment, réfléchissant. Il s'y oppose, n'est-il pas vrai?
Oui,
répéta Newman qui, maintenant que le grand mot était lâché, se sentait soulagé. Votre mère et votre frère ont manqué à leur parole. Ils ont décidé que le mariage n'aurait pas lieu. Ils m'ont repris leur parole. Valentin poussa une espèce de gémissement et leva les mains qu'un instant après il laissa retomber. Je suis peiné de n'avoir rien de sérieux à vous dire à ce sujet, continua Newman, mais ce n'est pas ma faute. J'étais en vérité bien malheureux quand votre dépêche me parvint. J'étais absolument anéanti. Vous pouvez imaginer si je me sens mieux maintenant. Valentin faisait entendre de sourds gémissements, d'une voix entrecoupée, comme si ses blessures se rouvraient. Manquer à leurs paroles. Manquer à leurs paroles, murmura-t-il. Et ma sœur, elle, ma sœur?
Votre sœur est bien malheureuse.
Elle a consenti à rompre avec moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais ce qu'ils lui ont fait. Ce doit être quelque chose d'affreux. Ils l'ont fait souffrir. Je ne l'ai pas vue seule, ils n'ont pas quitté. L'entrevue a eu lieu hier matin. Ils se sont expliqués platement, en quelques mots. Ils m'ont reproché d'être un commerçant. Ah, le cas me semble désespéré. Je suis chagrin, je suis colère, je suis malade. Newman, dans toute son existence, n'en avait jamais tant dit sur le ton plaintif. Valentin le regardait fixement, les yeux étincelants, les lèvres entrouvertes, une rougeur d'indignation montant à sa face pâle.
« Et Claire, Claire, » dit Bellegarde.
« Claire vous a retiré sa parole elle aussi. »
« Je ne peux me résoudre à le croire. »
« Non, ne le croyez pas, ne le croyez pas. Elle gagne simplement du temps. Pardonnez-lui.
Je la plains. »«
Pauvre Claire, » murmura Valentin.
« Mais eux, Il s'arrêta de nouveau. Vous les avez vus alors? Ils vous ont congédié ouvertement?
Face à face, ils ont été très explicites,
qu'ont-ils dit?
Ils ont dit qu'ils ne pouvaient admettre un commerçant.
Valentin posa sa main sur le bras de Newman.
Et à propos de leurs promesses, de leur engagement envers vous?
Ils ont fait une distinction. Leurs paroles ne devaient être sérieusement tenues que jusqu'au moment où Madame de Saint-Try m'accepterait.
Ne me dites rien de plus. J'ai honte.
Vous êtes l'honneur même, dit Newman, simplement.
Valentin détourna la tête en soupirant.
Pendant quelques instants, il garda le silence. Alors, faisant un effort sur lui-même, il trouva cette force pour presser la main de Newman.
C'est mal. C'est très mal.
Quand les miens, quand ceux de ma race en arrivent là, il est temps pour moi de partir. Je crois en ma sœur. Elle s'expliquera. Il faut l'excuser. S'il ne peut pas, pardonnez-lui. Elle a souffert. Mais pour les autres, c'est mal, très mal. Vous avez été cruellement frappé.
Non.
C'est une honte de vous le faire avouer. Newman ressentait comme une sorte de respect. Il avait évoqué des sentiments plus graves et plus élevés qu'il ne s'y attendait.
Valentin, après s'être tu un instant, reprit d'une voix presque ferme.
Je vous fais mes excuses. Vous entendez ici, à mon lit de mort? Je vous fais des excuses à cause de ma famille, pour ma mère, pour mon frère, pour l'ancienne maison des Bellegardes.
Voilà, ajouta-t-il doucement.
Newman, pour toute réponse, lui prit la main et la pressa avec une ineffable tendresse. Il venait d'entendre la porte s'ouvrir et à travers l'entrebâillement d'apercevoir le docteur, et derrière lui, les visages interrogateurs de messieurs Ledoux et Montjoyeux. Le docteur entra, suivi de ces deux messieurs, et s'assit auprès de Valentin, auquel, sans rien dire, il tâta le pouls.
Monsieur Ledoux fit signe alors à quelqu'un dans la chambre à côté. C'était un prêtre, le curé de la paroisse, portant à la main un objet inconnu de Newman et à demi recouvert d'une serviette blanche. Petit homme, tout rond et à face rubiconde, il s'avança en saluant Newman, et après avoir déposé son petit fardeau sur la table, s'installa dans le meilleur fauteuil, les bras croisés sur son ventre. Les deux témoins avaient échangé des regards expressifs sur l'opportunité de leur présence, mais pendant longtemps, Valentin ne prononça une parole ni ne fit un mouvement, de sorte que monsieur le curé se laissa peu à peu aller à un sommeil paisible. À la fin, cependant, Valentin ouvrit brusquement les yeux en appelant par son nom Newman, qui s'approcha aussitôt.
« Vous n'êtes pas seul, » dit Bellegarde en anglais. « Je voudrais vous parler, mais sans témoin. »
Newman regarda le docteur. Celui-ci toucha l'épaule du curé, qui se réveilla en sursaut. Ils se consultèrent un moment en haussant les épaules.
« Seul, pour 5 minutes, » répéta Valentin. « Laissez-nous, je vous prie. »
Ils sortirent tous, et quand Newman eut refermé la porte derrière eux, il revint au chevet du lit de Valentin.
Bellegarde avait suivi attentivement des yeux tous ses mouvements.
« C'est mal, très mal, » dit-il. « Plus j'y pense, plus je trouve leur conduite coupable. »
« N'y pensez plus alors. »
Mais sans prendre garde à la réponse, Valentin continua. Même s'ils revenaient sur leur détermination, la honte, la bassesse, n'en seraient pas moins là.
« Oh, ils ne reviendront pas, soyez-en sûrs. »
« Eh bien, vous pouvez les y forcer. »«
Les y forcer ?»«
Oui. Je peux vous dire quelque chose, un grand secret, un terrible secret. »
« Usez-en contre eux, pour les effrayer, pour les forcer. »«
Un secret ?» répéta Newman.
L'idée de laisser Valentin à son lit de mort lui confier un terrible secret lui répugna au premier moment et le fit reculer. Cela lui semblait un moyen illicite d'arriver à une information. Il y voyait une vague analogie avec l'action d'un écouteur aux portes. Puis, brusquement, la pensée de forcer Madame de Bellegarde et son fils lui traversa l'esprit. La tentation était trop forte pour que Newman y résistât longtemps. Il se pencha plus près des lèvres de Valentin, écoutant avidement. Mais pendant quelques instants, le mourant ne dit plus rien. Il fixait seulement sur son ami des regards étincelants. Newman commençait à croire qu'il avait eu le délire.
« Il y a eu, » murmura-t-il enfin, « il s'est passé à Fleurières un événement. Mon père, il lui arriva quelque chose. Je ne sais pas. J'ai eu honte. J'ai eu peur d'approfondir, mais il y a eu quelque chose, j'en suis sûr. Ma mère sait, elle. Urbain aussi.
Quelque chose arriva à votre père, demanda vivement Newman. Valentin le regardait, les yeux démesurément ouverts. Il ne s'est pas relevé. Que s'était-il passé? Mais l'immense effort qu'avait fait Valentin, d'abord pour se décider à prononcer ces mots et ensuite pour les prononcer, semblait avoir épuisé ses forces. Il s'arrêta, haletant. « M'avez-vous compris ? » reprit-il brusquement après un long silence. « À Fleurière, cherchez à savoir, vous le pourrez. »« Mrs. Bread est au courant. Dites-lui que je vous ai prié de le lui demander. »« Allez les trouver alors. Et voyez, cela pourra vous servir. S'il persiste, eh bien, révélez le secret à tout le monde. Ce sera... » Ici, la voix de Valentin ne fut plus qu'un murmure presque indistinct. « Ce sera votre vengeance. » Ces dernières paroles expirèrent dans un long et doux gémissement. Newman se releva profondément impressionné, ne sachant que répondre. « Merci, » fit-il enfin. « Je vous suis très obligé. » Mais Valentin ne parut pas l'entendre. Les yeux fermés maintenant et immobiles, il garda le silence. Newman alla enfin ouvrir la porte. Le curé entra, portant les sacrements. Monsieur de Montjoyeux, Monsieur Ledoux, le médecin et le domestique de Valentin entrèrent ensuite, les uns après les autres. On aurait dit une procession.